Germaine de Staël, Delphine, partie 2, lettres 38 à 41 comprises. Lettre 38. Réponse de Madame d'Artenat à Delphine. Fontainebleau, ce 19 novembre. Vous prenez beaucoup trop vivement, ma chère Delphine, les peines passagères de la vie. Que de candeur, de noblesse et de bonté dans votre lettre. Mais que vous êtes encore jeune. Je ne me souviens pas, en vérité, d'avoir eu cette bonne foi dans mon enfance. Et je ne suis pourtant, Dieu merci, ni méchante ni fausse. Mais j'ai vécu au milieu du monde, et je suis détrompée du plaisir d'être dupe. Quoi qu'il en soit, je ne veux pas exiger de vous ce qui serait trop opposé à votre caractère, et nous atteindrons au même but par une conduite négative. Dans la société de Paris, ce qu'on ne fait pas vaut presque toujours autant que ce qu'on pourrait faire. Vous ne passerez point votre vie dans le Languedoc, mais vous y resterez 6 mois. Pendant ce temps, tout sera oublié. On vous a accueilli avec transport à votre arrivée à Paris, c'est à présent le tour de l'envie. Quand vous reviendrez, on sera là de l'envie même, et curieux de vous revoir. Et comme rien de ce qu'on a dit n'a pu laisser de traces, on ne s'en souviendra plus. Ce n'est pas pour de telles causes que la réputation se perd. Si vous éprouviez ce malheur, quelque injuste qu'il pût être, votre philosophie ne tiendrait pas contre lui. Il a des pointes trop acérées. Mais il n'en est pas question, et je vous réponds de réparer cet hiver, et ce que M. le duel de M. de Sorbellane a fait dire, et ce que Mme de Vernon y a ajouté. Je vous demande seulement de vous arrêter dans ma terre qui est sur votre route en allant à Montpellier. Ma nièce, pour qui vous avez été si bonne, et que vous avez rendu raisonnable, vous en prie instamment. J'ose l'exiger de vous. Lettre 39. Delphine à Mademoiselle d'Albémare. Fontainebleau, ce 25 novembre. J'ai déjà fait 20 lieues pour me rapprocher de vous, ma chère Louise. Mon voyage est commencé, je suis partie de Paris, je ne reverrai plus les lieux où j'ai connu Léonce. Je les ai quittés le jour même où, rempli de mon souvenir, il attendait à 200 lieues de moi la réponse qui devait me justifier. Et je ne l'ai pas faite, cette réponse. Ah, d'où vient qu'un sacrifice si grand ne me donne point le repos que l'on doit attendre de la satisfaction de sa conscience? Hélas, les peines de l'amour étouffent toutes les jouissances attachées à l'accomplissement du devoir, et le bonheur succombe alors même que la vertu résiste. N'importe, ce n'est pas pour notre propre avantage que tant de nobles facultés nous ont été données. C'est pour seconder la pensée de l'être suprême en épargnant du mal, en faisant du bien sur la terre à tous les êtres qu'il a créés. J'ai regretté M. de Lébancé en quittant Paris. Je l'avais vu tous les jours qui ont précédé mon départ. Il craignait que ma dernière conversation avec sa femme ne m'eût éloigné d'elle, et il paraissait mettre du prix à nous rapprocher. J'ai promis de rester en correspondance avec lui. C'est un homme d'un esprit si étendu Il a réfléchi si profondément sur les sentiments et les idées, que peut-être il calmera mon cœur en m'accoutumant à considérer la vie sous un point de vue plus général. Madame d'Artena veut que je passe 8 jours ici dans sa terre, qui est agréablement située au milieu de la forêt de Fontainebleau. J'ai cédé à ses instances et surtout à celle de sa nièce, Madame de R. Elle a mis beaucoup de délicatesse à ne jamais me rechercher à Paris et semble attacher un grand prix à ces jours passés avec elle. Je ne continuerai donc mon voyage vers vous que dans 8 jours. Madame de Mondeville est venue me voir à Paris un soir que j'étais à Bellerive. Je lui ai rendu le lendemain sa visite, mais en m'assurant qu'elle n'y était pas. Je craignais d'y trouver sa mère, et j'avais raison d'avoir peur de l'émotion que j'éprouverais, si j'en juge par celle que m'a causée le seul moment où, depuis notre rupture, j'ai entrevu Madame de Vernon. Je sortais de Paris ce matin, avec ma voiture chargée pour le voyage et conduite par des chevaux de poste. Les postillons, en tournant, accrochèrent violemment un carrosse à 2 chevaux. Inquiète, je m'avançai pour voir s'il n'était pas renversé. J'aperçus dans ce carrosse Madame de Vernon, seule, et la tête appuyée contre un des côtés de la voiture. Je ne sais si c'était l'imagination ou la vérité, mais je la trouvais singulièrement pâle et défaite. Un cri d'étonnement m'échappa en la voyant. Elle me regarda d'un air qui me parut triste et doux. Vous l'avouerai-je, un mouvement involontaire me fit porter ma main au cordon de la voiture pour l'arrêter. Il n'y en avait point, et les chevaux m'avaient déjà emporté à 100 pas d'elle. Mais je sentis, par cette épreuve et par l'émotion qu'elle me causa le reste du jour, combien j'avais eu raison en évitant de revoir Madame de Vernon. Les souvenirs d'une longue et tendre amitié se renouvellent toujours quand on se représente celle que l'on a aimée comme souffrante ou malheureuse. Mais je sais trop bien que Madame de Vernon ne me regrette point, n'a pas besoin de moi, et je m'éloigne d'elle sans avoir, à cet égard, le moindre doute. Lettre 40. Delphine à Mademoiselle d'Albémar. Fontainebleau, ce 27 novembre. Ah, mon Dieu, que j'étais loin de prévoir l'événement qui me rappelle à l'instant même à Paris. La pauvre Madame de Vernon. Il ne me reste plus de traces de mon ressentiment contre elle. Je me reproche même. Je ne sais ce que je me reproche. Mais je serai bien malheureuse d'avoir été brouillée avec elle si je ne puis la revoir encore, la soigner, lui prouver que j'ai tout oublié. Je crains de perdre un moment même avec vous, ma chère Louise. Je vous envoie la lettre de Madame de Mondeville et je pars. Madame de Mondeville à Madame d'Albémar. Paris, ce 26 novembre. J'ai à vous annoncer, ma chère cousine, un cruel malheur. Cette nuit, ma mère a pris un vomissement de sang qui ne s'est point arrêté pendant plusieurs heures et que les médecins regardent comme mortel. Sa poitrine est déjà très attaquée depuis quelques mois par des veilles continuelles. L'on croit ce dernier accident sans remède dans son état et le péril même en paraît extrêmement prochain. Elle a tout à fait perdu connaissance vers la fin de la nuit. En revenant à elle, elle a fait quelques questions à son médecin, et comprenant parfaitement sa situation, elle lui a dit, avec l'air le plus calme et le plus doux, « J'aurai besoin, monsieur, de 3 ou 4 jours pour régler divers intérêts. Donnez-moi les remèdes qui peuvent me soutenir. Peu importe, comme vous le sentez bien, s'ils conviennent au fond de la maladie. » Elle est jugée, elle est sans ressources. Mais indiquez-moi ce qu'il faut faire pour avoir un peu de force jusqu'à la fin de ma vie. Je vous en serai sensiblement obligée. Alors, se retournant vers moi, elle me dit. C'est pour voir Madame d'Albémar que je souhaite encore de vivre quelques jours. Je l'ai rencontrée hier matin, partant pour Montpellier. Je crois qu'un courrier peut la rejoindre. Faites-le partir à l'instant. Je connais son cœur. Je suis sûre qu'elle n'hésitera pas à me revenir. Dites-lui seulement mon désir et mon état. Je crois, comme ma mère, ma chère cousine, que vous êtes trop bonne pour hésiter à satisfaire les vœux d'une femme mourante. Quand même, ce que j'ai toujours voulu ignorer, vous croiriez avoir à vous plaindre d'elle. Vous n'avez pas un moment à perdre pour lui donner la satisfaction de vous revoir et pour contribuer au salut de son âme. Car je ne doute pas que, malgré nos différences d'opinion, vous ne vous joigniez à moi pour l'engager à remplir les devoirs sacrés dont dépend son bonheur à venir. C'est le premier intérêt dont je veux vous parler. Vous lui ferez plus d'impression que moi si vous vous joignez à mes instances. Vous ne voulez pas, j'en suis sûre, exposer ma pauvre mère à mourir sans avoir reçu les secours de la religion. Je retourne auprès d'elle et je vous attends impatiemment. Sans ma confiance en Dieu, la douleur que je ressens me paraîtrait bien pénible à supporter. Adieu, ma chère cousine. Je viens de demander qu'on fît dans mon couvent des prières pour ma mère. Je les ai obtenues, j'y joins les miennes. J'espère que vous rendrez les vôtres efficaces en vous réunissant à moi dans les pieux efforts qui me sont commandés. Lettre 41. Delphine à Mademoiselle d'Albémar. Paris, ce 29 novembre. Elle vit encore, ma chère Louise, et c'est tout ce que je puis vous dire. Je n'ai point d'espérance, et jamais je n'aurais eu plus besoin d'en concevoir. Je me suis rattachée à Madame de Vernon par des sentiments qui ne sont pas en tout semblables à ceux que j'éprouvais pour elle, mais la pitié les rend aussi tendres. Que ne puis-je prolonger ses jours? Si elle revenait de son état maintenant, elle se corrigerait de ses défauts, parce qu'elle serait éclairée sur ses erreurs. Mais, hélas, il semble que la nature ne donne sa plus terrible leçon que la dernière, et ne permet pas de faire servir à la vie les sentiments qu'ont inspiré les approches de la mort. Je puis vous écrire pendant que Madame de Vernon essaie de se reposer. On lui a expressément défendu de parler, ce qui m'oblige à m'éloigner souvent d'elle. Votre intérêt sera douloureusement captivé par le récit de la conduite qu'elle tient. Vous serez aussi, je le crois, frappé de la singulière lettre qu'elle m'a écrite. Je vous l'envoie en vous priant de me la conserver. Oh, que le cœur humain est inattendu dans ses développements! Les moralistes méditent sans cesse sur les passions et les caractères, et tous les jours ils s'en trouvent que la réflexion n'avait pas prévu, et contre lesquels ni l'âme ni l'esprit n'ont été mis en garde. Je suis arrivée hier chez Madame de Vernon, et j'éprouvais, en entrant chez elle, tous les genres d'émotions réunies. L'embarras mêlé à la plus profonde pitié, un intérêt véritable joint à de l'incertitude sur les témoignages que j'en devais donner. J'avais su par un courrier que j'envoyais à l'avance que Madame de Vernon était un peu mieux mais toujours dans un grand danger. Je montais les escaliers en tremblant. Madame de Mondeville vint au-devant de moi. « Ma mère était bien impatiente de vous voir, me dit-elle. Elle vous a écrit hier tout le jour, quoiqu'on lui eût interdit cette occupation. Elle a mis en ordre ses affaires. Venez, vous la trouverez plus touchante que jamais elle ne l'a été. Mais jusqu'à présent, je n'ai pu lui faire encore entendre qu'elle est assez dangereusement malade pour se confesser. Les médecins disent que l'effrayer sur son état pourrait lui faire mal. Mais qui, juste ciel, oserait prendre sur soi de ménager son corps aux dépens de son âme? Je vous en avertis, je lui parlerai si vous ne vous en chargez pas. Attendez de grâce, répondis-je à madame de Mondeville, que je me sois entretenu avec madame votre mère. Mathilde me conduisit enfin chez la pauvre malade. La chambre était obscure. À travers le jour sombre qui l'éclairait, j'aperçus madame de Vernon couchée sur un canapé, les cheveux détachés, vêtue de blanc et d'une pâleur effrayante. Elle vit l'émotion que j'éprouvais. « Remettez-vous, ma chère Delphine, me dit-elle. C'est bon à vous d'être si troublée. » Je pris sa main et je la baisai tendrement. Elle me fit signe de m'asseoir et m'adressa d'abord des questions indifférentes sur mon voyage, sur le lieu où le courrier m'avait rencontré, sur la santé de madame d'Artenat, etc. Je répondis à tout par des monosyllabes, n'osant commencer moi-même à lui parler de son état et souffrant cruellement néanmoins de prendre part à des conversations si étrangères aux sentiments qui m'occupaient. Sa fille se leva et nous laissa seuls. Je crus qu'elle allait me parler avec confiance, mais continuant à l'éviter, elle me raconta son accident, les suites qu'il devait avoir, la certitude qu'elle avait de mourir dans 3 ou 4 jours, avec une simplicité et un calme tout à fait semblables à sa manière habituelle, à cette manière qui lui donnait toujours, soit dans le sérieux, soit dans la plaisanterie, de la grâce et de la dignité. Elle prit son mouchoir en me parlant, l'approcha de sa bouche et le reposa, sans s'interrompre, sur la table. Je le vis plein de sang. Je tressaillis, et, penchant ma tête sur sa main, je fondis en larmes, en l'appelant plusieurs fois du nom que j'aimais à lui donner. « Sophie, ma chère Sophie !»« Généreuse Delphine, me dit-elle, vous m'aimez encore ? Ah, cela vaut mieux que vivre !»« Je vous ai écrit, ajouta-t-elle, afin d'éviter une conversation trop pénible pour nous deux. Ma lettre contient tout ce que je pourrais dire. Je n'ai pas prétendu me justifier, mais vous expliquer ma conduite par mon caractère et ma manière de voir. Vous ne trouverez pas, peut-être, mes sentiments meilleurs après cette explication, mais vous comprendrez comment ils sont dans la nature. Et si je vous montre les causes des plus grands torts, vous serez un peu plus disposé à les pardonner. Ce que je vous demande instamment, c'est, après avoir lu cette lettre, de n'en pas causer avec moi. J'ai toujours craint les fortes émotions. Je ne suis pas assez contente de moi pour aimer à m'abandonner à mes mouvements ni à ceux des autres. Le repentir seul convient à ma situation et je ne veux pas m'y livrer. Je suis mieux en tout quand je me contiens et l'entraînement me fait mal. Écrivez-moi seulement 2 lignes qui me disent que vous conserverez un souvenir encore doux de votre ancienne amie. Je les mettrai, ces 2 lignes, sur ma poitrine déjà mortellement atteinte, et ce remède me fera peut-être mourir sans douleur. En disant ces derniers mots, elle sonna comme si elle eût redouté les pleurs que je répandais et la prolongation de sa propre émotion. Ces femmes entrèrent, elle me renvoya doucement chez moi. Je montai dans une chambre que je m'étais fait donner pour ne pas sortir de la maison, et je lus avec un serrement de cœur continuel la lettre que voici. Madame de Vernon à Madame d'Albémare. Je n'ai été aimée dans ma vie que par vous. Beaucoup de gens m'ont trouvée aimable, ont recherché ma société. Mais vous êtes la seule personne qui m'ayez rendu service sans intérêt personnel, sans autre objet que de satisfaire votre générosité et votre amitié. Et cependant, vous êtes l'être du monde envers lequel j'ai eu les torts les plus graves. Peut-être même n'y a-t-il que vous qui ayez véritablement le droit de me faire des reproches. Comment vous expliquer Comment m'expliquer à moi-même une telle conduite? Au moins, je n'en adoucis pas les couleurs. Je m'interdis, pour la première fois de ma vie, tout autre secours que celui de la vérité. C'est à votre esprit seul que je m'adresserai dans cette peinture fidèle de mon caractère. Et je n'abuserai point de ma situation pour obtenir mon pardon de l'attendrissement qu'elle pourrait vous causer. Les circonstances qui présidèrent à mon éducation ont altéré mon naturel. Il était doux et flexible. On aurait pu, je crois, le développer d'une manière plus heureuse. Personne ne s'est occupé de moi dans mon enfance, lorsqu'il eût été si facile de former mon cœur à la confiance et à l'affection. Mon père et ma mère sont morts que je n'avais pas 3 ans, et ceux qui m'ont élevé ne méritaient point mon attachement. Un parent très éloigné et très insouciant fut mon tuteur. Il me donnait des maîtres en tout genre, sans prendre le moindre intérêt ni à ma santé ni à mes qualités morales. Il voulait être bien pour moi, mais comme il n'était averti de rien par son cœur, sa conduite tenait au hasard de sa mémoire ou de sa disposition. Il regardait d'ailleurs les femmes comme des jouets, dans leur enfance et dans leur jeunesse comme des maîtresses plus ou moins jolies, que l'on ne peut jamais écouter sur rien de raisonnable. Je m'aperçus assez vite que les sentiments que j'exprimais étaient tournés en plaisanterie, et que l'on faisait taire mon esprit comme s'il ne convenait pas à une femme d'en avoir. Je renfermais donc en moi-même tout ce que j'éprouvais. J'acquis de bonne heure ainsi l'art de la dissimulation, et j'étouffais la sensibilité que la nature m'avait donnée. Une seule de mes qualités, la fierté, échappa à mes efforts pour les contraindre toutes. Quand on me surprenait dans un mensonge, je n'en donnais aucun motif, je ne cherchais point à m'excuser, je me taisais. Mais je trouvais assez injuste que ceux qui comptaient les femmes pour rien, qui ne leur accordaient aucun droit et presque aucune faculté, que ceux-là même voulussent exiger d'elles les vertus de la force et de l'indépendance, la franchise et la sincérité. Mon tuteur, assez fatigué de moi, parce que je n'avais point de fortune, vint me dire un matin qu'il fallait épouser Monsieur de Vernon. Je l'avais vu pour la première fois la veille. Il m'avait souverainement déplu. Je m'abandonnais au seul mouvement involontaire que je me sois permis de montrer en ma vie. Je résistais avec assez de véhémence. Mon tuteur me menaça de me faire enfermer pour le reste de mes jours dans un couvent si je refusais Monsieur de Vernon. Et comme je ne possédais rien au monde, je n'avais point l'espoir de m'affranchir de son despotisme. J'examinai ma situation, je vis que j'étais sans force. Une lutte inutile me parut la conduite d'un enfant. J'y renonçai, mais avec un sentiment de haine contre la société qui ne prenait pas ma défense et ne me laissait d'autre ressource que la dissimulation. Depuis cette époque, mon parti fut irrévocablement prêt d'y avoir recours chaque fois que je le jugerais nécessaire. Je crus fermement que les sorts des femmes les condamnaient à la fausseté. Je me confirmai dans l'idée conçue dès mon enfance que j'étais, par mon sexe et par le peu de fortune que je possédais, une malheureuse esclave à qui toutes les ruses étaient permises avec son tyran. Je ne réfléchis point sur la morale. Je ne pensais pas qu'elle pût regarder les opprimés. Je n'étouffais point ma conscience, car en vérité, jusqu'au jour où je vous ai trompé, elle ne m'a rien reproché. Monsieur de Vernon n'était point un caractère insouciant comme mon tuteur, mais il avait avant tout la peur d'être gouverné. Et néanmoins, une si grande disposition à être dupe qu'il donnait toujours la tentation de le tromper. Cela était si facile, et il y avait tant d'inconvénients à lui dire la vérité la plus innocente, qu'il aurait fallu, je vous l'atteste, une sorte de chevalerie dans le caractère pour parler avec sincérité à un tel homme. J'ai pris pendant 15 ans l'habitude de ne devoir aucun de mes plaisirs qu'à l'art de cacher mes goûts et mes penchants, et j'ai fini par me faire, pour ainsi dire, un principe de cet art même, parce que je le regardais comme le seul moyen de défense qui restât aux femmes contre l'injustice de leur maître. J'engageais M. de Vernon avec tant d'adresse à passer plusieurs années à Paris qu'il crut y aller malgré moi. J'aimais le luxe, et je ne connais personne qui, par son caractère, ses fantaisies et sa prodigalité, ait plus besoin que moi d'une grande fortune. M. de Vernon s'était enrichi par l'économie. Je sus cependant exciter si bien son amour-propre qu'à sa mort il était presque ruiné, et avait contracté, vous le savez, une dette assez forte avec la famille de Léonce. Je disposais de M. de Vernon, et cependant, il me traitait toujours avec une grande dureté. Il ne se doutait pas que j'eusse de l'ascendant sur ses actions. Mais pour mieux se prouver à lui-même qu'il était le maître, il me parlait toujours avec rudesse. Ma fierté se révoltait souvent en secret de tout ce que j'étais obligé de faire pour alléger ma servitude. Mais si je m'étais séparé de M. de Vernon, je serais retombé dans la pauvreté, et j'étais convaincu que de toutes les humiliations, la plus difficile à supporter au milieu de la société, c'était le manque de fortune et la dépendance que cette privation entraîne. Je ne voulus point avoir d'amant, quoique je fusse joli et spirituel. Je craignais l'empire de l'amour. Je sentais qu'il ne pouvait s'allier avec la nécessité de la dissimulation. J'avais pris d'ailleurs tellement l'habitude de me contraindre qu'aucune affection ne pouvait naître malgré moi dans mon cœur. Les inconvénients de la galanterie me frappèrent très vivement, et ne me sentant pas les qualités qui peuvent excuser les torts d'entraînement, je résolus de conserver intacte ma considération au milieu de Paris. Je crois que personne n'a jugé mieux que moi le prix de cette considération et les éléments dont elle se compose. Mais les liens d'amour tels qu'on peut les former dans le monde valent-ils mieux qu'elle? Je ne le pense pas. J'avais eu d'abord l'idée d'élever ma fille d'après mes idées et de lui inspirer mon caractère. Mais j'éprouvais une sorte de dégoût de former une autre à l'art de feindre. J'avais de la répugnance à donner les leçons de ma doctrine. Ma fille montrait dans son enfance assez d'attachement pour moi. Je ne voulais ni lui dire le secret de mon caractère, ni la tromper. Cependant, j'étais convaincue, et je le suis encore, que les femmes, étant victimes de toutes les institutions de la société, elles sont dévouées au malheur si elles s'abandonnent le moins du monde à leurs sentiments, si elles perdent de quelque manière l'empire d'elles-mêmes. Je me déterminai, après y avoir bien réfléchi, à donner à Mathilde, dont le caractère, je vous l'ai dit, s'annonçait de bonne heure comme très âpre, le frein de la religion catholique. Et je m'applaudis d'avoir trouvé le moyen de soumettre ma fille à tous les jougs de la destinée de femme sans altérer sa sincérité naturelle. Vous voyez d'après cela que je n'aimais pas ma manière d'être, quoique je fusse convaincue que je ne pouvais m'en passer. M. de Vernon mourut. L'état de sa fortune me rendait impossible de rester à Paris. J'en fus très affligée. J'aime la société, ou pour mieux dire, je n'aime pas la solitude. Je n'ai pas pris l'habitude de m'occuper, et je n'ai pas assez d'imagination pour avoir dans la retraite aucun amusement, aucune variété par le secours de mes propres idées. J'aime le monde, le jeu, etc. Tout ce qui remue au dehors me plaît. Tout ce qui agite au dedans m'est odieux. Je suis incapable de vives jouissances, et par cette raison même je déteste la peine. Je l'ai évitée avec un soin constant et une volonté inébranlable. J'allais à Montpellier. C'est alors que je vous connus il y a 6 ans. Vous en aviez 16 et moi près de 40. Monsieur d'Albémar, qui vous avait élevé, devait, quoiqu'il eût déjà 60 ans, vous épouser l'année suivante. Ce mariage me déplaisait extrêmement. Il m'ôtait tout espoir d'obtenir une part quelconque dans l'héritage de monsieur d'Albémar, et de voir finir la gêne d'argent qui m'était singulièrement odieuse. J'avais d'abord assez de prévention contre vous, mais je vous l'atteste, et j'ai bien le droit d'être cru après tant de pénibles aveux. Vous me parûtes extrêmement aimable, et dans les 3 années que j'ai passées à Montpellier, je trouvais dans votre entretien un plaisir toujours nouveau. Cependant, mon âme n'était plus accessible à des sentiments assez forts pour me changer. Il fallait, pour être aimé d'une personne comme vous, que je cachasse mon véritable caractère, et j'étudiais le vôtre pour y conformer en apparence le mien. Cette feinte, quoiqu'elle eût pour but de vous plaire, dénaturait extrêmement le charme de l'amitié. Votre mari mourut. Je vous avais dit que je désirais achever l'éducation de ma fille à Paris. Vous m'offrîtes aussitôt d'y venir avec moi et de me prêter 40 000 livres qui m'étaient nécessaires pour m'y établir. J'acceptai ce service et voilà ce qui a commencé à dépraver mon attachement pour vous. Vous étiez si jeune et si vive que je ne vous regardais absolument que comme un plaisir dans ma vie. De ce moment, je pensais que vous pouviez m'être utile et j'examinais votre caractère sous ce rapport. J'aperçus bientôt que vous étiez dominé par vos qualités, la bonté, la générosité, la confiance, comme on l'est par des passions, et qu'il vous était presque aussi difficile de résister à vos vertus, peut-être inconsidérées, qu'à d'autres de combattre leurs vices. L'indépendance de vos opinions, la tournure romanesque de votre manière de voir et d'agir, me parurent en contraste avec la société dans laquelle vos goûts, vos succès, votre rang et vos richesses devaient vous placer. Je prévis aisément que vos agréments et vos avantages inspireraient pour vous des sentiments passionnés, mais vous feraient des ennemis. Et dans la lutte que vous étiez destiné à soutenir contre l'envie et l'amour, je pensais que je pourrais aisément prendre un grand ascendant sur vous. Je n'avais alors, je vous le jure, d'autre intention que de faire servir cet ascendant à notre bonheur réciproque. Mais le sentiment que vous inspirâtes à Léonce changea ma disposition. Je mettais une grande importance au mariage de ma fille avec lui, et je vous en ai dans le temps développé tous les motifs. Ils étaient tels que votre générosité même ne pouvait diminuer leur influence sur mon sort. Je ne pouvais, sans ce mariage, être dispensé de rendre compte de la fortune de monsieur de Vernon, ni donner une existence convenable à ma fille, ni conserver mon état à Paris. Il y avait quelques-unes de mes dettes que je ne vous avais pas avouées, entre autres celle de monsieur de Clarimin. Je me croyais sûre de son silence. J'étais loin de penser qu'il fût capable de la conduite qu'il a tenue envers moi. Je le connaissais depuis mon enfance. C'est le seul homme qui m'ait trompé, parce que, de tout temps, il s'est montré à moi comme très immoral, et que j'ai cru, par conséquent, qu'il ne me cachait rien. Une fois, malgré ma prudence accoutumée, je lui répondis une lettre un peu vive. Cette lettre ne s'est pas trouvée. Elle l'a blessée. L'un des inconvénients de l'habitude de la dissimulation, c'est qu'une seule faute peut détruire tout le fruit des plus grands efforts. Le caractère naturel porte en lui-même de quoi réparer ses torts. Le caractère qu'on s'est fait peut se soutenir, mais non se relever. Je vous suis mauvais gré de vouloir enlever Léonce à ma fille. après que nous étions convenus ensemble de ce mariage. Si je vous avais parlé franchement, vous vous seriez sans doute justifié. Mais j'ai une aversion particulière pour les explications. Décidée à ne pas faire connaître en entier ce que je pense, je déteste les moments que l'on destine à se tout dire. Je conservais donc mon ressentiment contre vous, et il devint plus amer étant contenu. Le jour de la mort de M. Dervin, au moment même du dénouement de cette funeste histoire, lorsque j'avais tout préparé pour m'opposer à votre mariage, vous m'avez montré tant de confiance que je fus prête à vous avouer ce qui se passait en moi. Mais ce mouvement était si contraire à ma nature et à mes habitudes que j'éprouvais dans tout mon être comme une sorte de raideur qui s'y opposait. Mille hasards se réunirent pour aider à mes desseins. Une lettre de la mère de Léonce qui s'opposait de la manière la plus solennelle à son mariage avec vous arriva la veille même du jour où je devais lui parler. Le public était convaincu que c'était l'amour de M. de Serbellane pour vous qu'il avait si vivement hérité contre un mot blessant que vous avez dit M. Dervin. Ce que vous écriviez à Léonce était assez vague pour s'accorder avec ce qu'on pouvait insinuer ou taire. Les soins que vous preniez pour sauver la réputation de Mme Dervin vous compromettaient nécessairement dans l'opinion. Je me vis environné de ces facilités funestes qui achèvent d'entraîner dans le combat de l'intérêt avec l'honnêteté. J'hésitais encore cependant, je vous le jure, et deux fois j'ai demandé mes chevaux pour aller à Bellerive. Mais enfin, ma fille, dans une conversation que nous eûmes ensemble le matin même du retour de Léonce, me dit qu'elle l'aimait et que le bonheur de sa vie était attaché à l'épouser. Alors je fus décidée, je me dis qu'en donnant à Mathilde l'espérance d'être la femme de Léonce, en lui faisant voir tous les jours un jeune homme aussi remarquable, j'avais contracté l'obligation de l'unir à lui, et que je ne faisais qu'accomplir mon devoir de mère en employant tous les moyens possibles pour déterminer Léonce à l'épouser. À cet intérêt se joignit une opinion qui ne peut pas m'excuser à vos yeux, mais dont je conserve néanmoins encore la conviction intime. Je ne crois pas que le caractère de Léonce eût jamais pu vous rendre heureuse. Je sais qu'il a de grandes qualités par lesquelles vous pouvez vous ressembler. Mais je l'ai remarqué dans cet entretien même où j'ai mérité tous mes malheurs en trahissant votre confiance. Ce n'était point la jalousie seule qui agissait sur lui. J'exerçais un grand empire sur les mouvements de son âme en lui disant que l'opinion générale vous était contraire et qu'on le blâmerait de rechercher une femme qui s'était publiquement compromise. Chaque fois que j'en appelais pour le décider à ce qu'il devait à sa propre considération, je lui causais une rougeur, une agitation qui ne se serait pas entièrement calmée quand même on lui aurait prouvé que les apparences seules étaient contre vous. Vous savez maintenant, non mon excuse, mais l'explication de ma conduite. Mon plus grand tort fut d'arracher à Léonce son consentement et de l'entraîner à l'église avant que vous eussiez eu le temps de vous revoir. J'en ai été puni. Il n'est résulté pour moi que des peines de ce malheureux mariage. Ma fille s'est éloignée de moi. Elle n'a voulu se prêter à rien de ce que je souhaitais. Je me suis jetée dans les distractions qui suspendent toutes les inquiétudes de l'âme. J'ai joué, j'ai veillé toutes les nuits. Je sentais qu'en me conduisant ainsi, j'abrégeais ma vie, et cette idée m'était assez douce. Je craignais à chaque instant que le hasard n'amenât un éclaircissement entre Léonce et vous. Si j'ai mis alors tant d'intérêt à l'empêcher, c'était surtout dans l'espoir de conserver ou de dérober même votre amitié que je ne méritais plus. Le mariage que je voulais était conclu, mais il fallait que l'absence de Léonce me laissât le temps de vous engager à l'oublier, et peut-être alors auriez-vous formé d'autres liens qui vous auraient rendu plus indifférente aux moyens employés pour vous brouiller avec M. de Mandeville. Pendant 2 mois qu'il a différé le voyage qu'il projetait, j'ai su tout ce que vous faisiez l'un et l'autre afin de prévenir l'explication que je redoutais mortellement. Votre caractère et celui de Léonce rendaient cette entreprise plus facile. Vous vous occupiez de M. de Serbelane à cause de Mme d'Hervin, sans songer qu'à votre âge, vous pouviez nuire ainsi très sérieusement à votre réputation. Et Léonce a non seulement de la jalousie dans le caractère, mais une sorte de susceptibilité sur les torts d'une femme envers lui ou sur ceux qu'elle peut avoir aux yeux des autres, dont il est aisé de tirer avantage pour l'irriter même contre celle qu'il aime. Enfin, Léonce partit pour l'Espagne. Vous me proposâtes d'aller avec vous à Montpellier, et me croyant sûr, Léonce étant absent, de pouvoir conserver votre amitié, je revins à vous du fond de mon cœur, avec la tendresse la plus vive que j'ai jamais éprouvée pour personne. Quand j'acceptai de vous un nouveau service, j'étais digne de le recevoir. Je crus au bonheur plus que je n'y avais cru de ma vie. Ma santé se rétablissait, et l'espoir de passer le reste de mes jours avec vous rafraîchissait mon âme flétrie. C'est alors qu'un enfant a découvert le secret le mieux caché. C'est la punition d'une femme qui se croyait habile en dissimulation que d'être déjouée par un enfant quand elle avait réussi à tromper les hommes. Cet événement m'a tuée. La maladie dont je meurs vient de là. Vous avez été offensée avec raison dans la manière dont je me suis conduite lorsque tout vous fut révélé. Mais notre liaison ne pouvant plus subsister, je voulais éviter des scènes douloureuses. Plus je me sentais coupable, plus je souffrais, plus je voulais vous le cacher. Vous pouviez me perdre auprès de Léonce. Je ne cherchais point à vous adoucir. Je pouvais, il est vrai, me confier en votre générosité. Mais ne repoussez pas le peu de bien que je dis de moi-même. C'est, je vous le jure, parce que je vous aimais encore, qu'il me fut impossible de vous implorer. Il ne me convenait pas, tant que je continuais à vivre dans le monde, que l'on connût la véritable cause de notre brouillerie. Je me trouvais engagé à suivre mon caractère, à mettre de l'art dans ma défense. Cependant, ce caractère éprouvait déjà beaucoup de changements dans le secret de moi-même. Mais après 40 ans, les habitudes dirigent encore, alors même que les sentiments ne sont plus d'accord avec elles. Il faut de longues réflexions ou de fortes secousses pour corriger les défauts de toute la vie. Un repentir de quelques jours n'a pas ce pouvoir. Quand je vous rencontrais avant-hier au moment de votre départ, quand je vis le regard doux et sensible que vous jetâtes sur moi, j'éprouvais une émotion si profonde et si vive qu'elle a beaucoup hâté la fin de ma vie. J'aurais voulu vous retenir à l'instant pour vous révéler mes secrets. Mais il fallait l'approche de la mort pour me donner la confiance de parler de moi-même. Je suis timide malgré la présence d'esprit que j'ai su toujours montrer. Mon caractère est fier, quoique ma conduite ait été souple et dissimulée. Il y a en moi je ne sais quel contraste qui m'a souvent empêché de me livrer au bon mouvement que j'éprouvais. Enfin, je vais mourir, et toute cette vie d'efforts et de combinaisons est déjà finie. Je jouis de ces derniers jours pendant lesquels mon esprit n'a plus rien à ménager. Je croyais, il y a quelque temps, que j'avais seul bien entendu la vie, et que tous ceux qui me parlaient de sentiments dévoués et de vertus exaltées étaient des charlatans ou des dupes. Depuis que je vous connais, il m'est venu par intervalles d'autres idées. Mais je ne sais encore si mon aride système était complètement erroné, et s'il n'est pas vrai qu'avec toute autre personne que vous, les seules relations raisonnables sont les relations calculées. Quoi qu'il en soit, je ne crois pas avoir été méchante. J'avais mauvaise opinion des hommes et je m'armais à l'avance contre leurs intentions malveillantes. Mais je n'avais point d'amertume dans l'âme. J'ai rendu fort heureux tous mes inférieurs, tous ceux qui ont été dans ma dépendance. Et lorsque j'ai usé de la dissimulation envers ceux qui avaient des droits sur moi, c'était encore en leur rendant la vie plus agréable. J'ai eu tort envers vous, Delphine, envers vous, qui êtes, je vous le répète, ce que j'ai le plus aimé. Inconcevable bizarrerie, que ne me suis-je livrée à l'impression que vous faisiez sur moi. Mais je la combattais comme une folie, comme une faiblesse, qui dérangeait une vie politiquement ordonnée, tandis que ce sentiment aurait aussi bien servi mes intérêts que mon bonheur. J'ai tout dit dans cette lettre. Je ne vous ai point exagéré les motifs qui pouvaient m'excuser. J'ai donné à mes sentiments pour ma fille, à mes calculs personnels, leur véritable part. Croyez-moi donc sur le seul intérêt qui me reste. Croyez que je meurs en vous aimant. J'ai vécu pénétré d'un profond mépris pour les hommes, d'une grande incrédulité sur toutes les vertus comme sur toutes les affections. Vous êtes la seule personne au monde que j'ai trouvée tout à la fois supérieure et naturelle, simple dans ses manières, généreuse dans ses sacrifices, constante et passionnée, spirituelle comme les plus habiles, confiante comme les meilleures. Enfin, un être si bon et si tendre que malgré tant d'aveux indignes de pardon, c'est en vous seul que j'espère, pour verser des larmes sur ma tombe, et conserver un souvenir de moi qui tienne encore à quelque chose de sensible. Sophie de Vernon. Quelle lettre que celle que vous venez de lire, ma chère Louise! N'augmente-t-elle pas votre pitié pour la malheureuse Sophie? Quelle vie froide et contrainte elle a menée! Quelle honte et quelle douleur qu'une dissimulation habituelle! Comment pourrais-je lui inspirer quelques-uns de ces sentiments qui peuvent seuls soutenir dans la dernière scène de la vie? Oh, je lui pardonne, et du fond de mon cœur. Mais je voudrais que son âme s'endormît dans des idées, dans des espérances qui puissent l'élever jusqu'à son Dieu. Je vais retourner vers elle, et demain je vous écrirai.